États-Unis recommande à la CENI d'organiser les élections en 2018. Déclaration faite la semaine dernière à Kinshasa par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU lors de ce séjour en RDC. Nikki Haley a aussi invité la CENI à publier un calendrier électoral tenant les dates précises pour chacun des scrutins. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Dieudonné Bolenguetengue. Il est député national de l'opposition. Il est aussi secrétaire exécutif national du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. Bonsoir, honorable Dieudonné Bolenguetengue.
Bonsoir.
François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bonsoir, honorable François Nzekouye.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir, auditeurs de Radio Capi.
Et professeur Jeff Moudimbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir, monsieur Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les États-Unis demandent à la CENI d'organiser les élections en 2018. Pour cela, la Commission électorale nationale indépendante est appelée à publier un calendrier contenant les dates précises pour chacun des scrutins. C'est ce qu'a affirmé Nikki Haley. À en croire la diplomate américaine, ce n'est qu'à ses prix que la situation politique sera apaisée. Sinon, les États-Unis ne vont pas financer le processus électoral. L'émissaire des États-Unis aux Nations Unies l'a déclaré vendredi dernier à Kinshasa, au sortir de la rencontre avec le président de la CENI, Corneille Nangaa. Écoutons Nikki Haley au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Voilà donc que nous sommes venus rencontrer la Commission électorale nationale indépendante parce que c'est un organe important dans la tenue des élections dans ce pays et de montrer que chaque jour qu'une élection n'est pas tenue dans ce pays, c'est une femme qui se fait violer, c'est des enfants qui sont enrôlés dans l'armée et donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et le message a été clair, que si les élections ne sont pas tenues en 2018, eh bien la RDC ne pourrait pas compter sur l'appui de la communauté internationale et des États-Unis d'Amérique. Il est donc important que ces élections se tiennent en 2018 et c'est cela que nous avons fait voir à la Commission nationale électorale indépendante. Et cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes aux élections donnent leur appui au processus. Il s'agit donc des évêques, mais également les partis politiques. Mais le président de la République doit également dire que les élections doivent être organisées en 2018. Ce n'est que la seule voie issue pour la tenue des élections libres, c'est que toutes les parties prenantes y mettent la main à la pâte. Nous n'appuierons pas du tout, de quelque manière que ce soit, un calendrier électoral si ce calendrier ne spécifie pas clairement que les élections se tiendront pas plus tard que 2018.
This is not a democracy.
Dieudonné Bolenguetengue, député national de l'opposition et aussi secrétaire exécutif national du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. Les États-Unis donnent leur position, les élections en 2018. Comment vous réagissez à cette déclaration de Madame Nikki Haley?
Merci pour la question. Je crois que la déclaration ne peut que réjouir les Congolais en dépit du fait que nous autres au Rassemblement, nous avions cru et nous avons tout fait pour essayer de dissuader nos compatriotes de l'autre bord d'aller dans le sens d'organiser ces élections en 2017. La déclaration de Mme Haley est faite avec des intentions nobles. On peut s'en réjouir parce qu'elle a pris le soin de rappeler à nos autorités publiques ce qui relève de leur devoir, c'est-à-dire être un peu sensible aux souffrances du peuple congolais. On faisait allusion aux femmes qui sont violées, aux enfants qui sont enrôlés dans les groupes armés du fait d'un pouvoir qui a perdu toute légitimité. Elle pouvait aller au-delà pour décrire d'autres situations difficiles que traverse le peuple congolais, notamment les conditions de vie précaires, l'insécurité généralisée, les atteintes aux droits et aux libertés. La corruption, le pillage, tout ce tableau décrit une situation qui est devenue insupportable pour toute conscience humaine normale. Voilà, voilà ce sur quoi elle se base. Elle pouvait aussi aller au-delà, nous dire que nous n'avons pas les moyens de payer ces élections. La preuve, les agents de la CENI connaissent des arriérés. Vous avez suivi pendant la période d'enrôlement des contestations partout parce qu'ils n'étaient pas payés. Donc, les gens qui vont payer pour ces élections et qui sont habitués à organiser des élections, qui ont une expérience en la matière, qui sont nos partenaires, nous conseillent d'aller rapidement vers un pouvoir légitime, issu de la volonté du peuple congolais, pour que les esprits se calment et qu'on se remette à reconstruire notre pays. Je crois que c'est une déclaration que nous devrions tous accueillir avec une certaine joie, même si 2018, c'est quand même à quelques encablures d'ici.
Et donc vous accueillez avec joie cette déclaration, mais l'opposition tient mordicus à l'instauration d'une transition sans Kabila. Vous n'êtes pas déçu par, quelque part, vous n'êtes pas déçu par cette position des États-Unis?
Non, les États-Unis, c'est un pays partenaire. Mais le problème du peuple congolais, le principal acteur dans la scène ici ou en RDC, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais a donné un mandat légitime au président Kabila en 2006, de 5 ans, qui a été renouvelé en 2011 pour une dernière tranche de 5 ans, épuisée depuis 2016. Et vous savez ce qui s'est passé en 2016? Nous avions demandé que ce pouvoir s'arrête. Et donc, grâce aux bons offices des évêques, qui sont très respectés, du fait de leur autorité morale dans ce pays, tout le monde s'est plié à l'idée d'un accord qui a rallongé ses pouvoirs d'un an. Et au lieu de mettre cette année à profit pour aller dans le sens d'organiser les élections, on voit les institutions de la République tourner en rond, notamment la CENI. Chaque fois que les responsables de la CENI font une déclaration, c'est pour lancer de la provocation à l'endroit du peuple congolais, c'est pour démontrer, chercher à démontrer que les élections, ce n'est pas pour bientôt. Donc il faut inventer tous les artifices possibles pour renvoyer ces élections au calendrier grec.
Et donc votre position n'est pas déçue par la position des Américains?
Nous ne sommes pas déçus parce que les Américains, en fait, ce n'est pas incompatible. Et ils disent les élections en 2018. Mais dès lors que nous acceptons qu'au Kassai, l'enrôlement se poursuit, selon la CENI jusqu'au mois de janvier 2018, ça veut dire qu'on n'a pas les élections en 2017. Mais si on n'a pas les élections en 2017, l'accord n'ayant prévu une rallonge jusqu'au 31 décembre 2017, ce qui va se faire en 2018, ça ne peut pas se faire avec l'actuel chef de l'État. C'est ça la position du rassemblement. Donc, le pouvoir du président Kabila s'arrête le 31 décembre 2017, mais les élections peuvent avoir lieu en 2018, d'où la tranche de l'abs d'État entre le 1er janvier 2018 et les jours des élections. Ça se fera dans le cadre d'une transition, parce que personne n'aura gagné les élections. Donc ça sera une transition vers les élections. Mais pas avec les gens qui ont saboté le processus électoral.
Il faut être clair, hein, s'il faut s'en tenir à la logique des Américains, parce que vous dites que vous soutenez cette position, et donc l'opposition devra revoir sa position quand on sort, n'est-ce pas, des chefs de l'État, et devra accepter de composer avec le président Kabila au-delà de 2017.
Nous n'avons pas entendu Madame Ali dire ça. Madame Ali, les élections doivent avoir lieu en 2018.
Elle n'a pas non plus dit qu'il faut une transition sans Kabila.
Non,
elle n'a pas dit ça.
Non, non. À mon avis, elle s'est exprimée sur ce qui va être la solution durable au problème. Il faut qu'on sorte d'un pouvoir arbitraire pour aller vers un pouvoir légitime, et ceci n'est possible qu'avec l'organisation des élections. On doit être réaliste, les élections vont avoir lieu en 2018, selon elle, mais nous qui parlions de transition sans Kabila, on accepte justement le principe déjà que c'est impossible d'organiser les élections en 2017 dans l'état actuel des choses, mais la suite ne se fera pas avec lui, parce qu'il n'y a plus de raison de les garder. On va les garder pourquoi?
Et donc pour le 31 décembre, vous instaurez une transition sans lui?
Ce n'est pas nous qui instaurons, nous n'avons pas l'autorité de décréter une transition sans lui. Ce que nous demandons, ce que le rassemblement a demandé depuis son conclave, son deuxième conclave.
Vous demandez ça à qui?
C'est au peuple congolais, souverain.
Donc c'est le peuple qui instaure une transition au 31 décembre.
Au regard de la constitution de notre pays, la légitimité du pouvoir revient au peuple. La souveraineté appartient au peuple congolais. Et la constitution a prévu en son article 64 que tout Congolais a le devoir de faire échec à toute personne ou tout groupe de personnes qui veut exercer le pouvoir par la force, ou prendre le pouvoir par la force, ou l'exercer en violation de la Constitution. Donc la Constitution a prévu un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est fini, il y a eu un accord. Au-delà de cet accord, il n'y a plus de place pour Joseph Kabila.
François Nzekouyé, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD, comment réagissez à la proposition des États-Unis qui souhaitent ardemment les élections en 2018?
Moi, je crois que Mme Nikki Haley, ambassadeur aux Nations Unies des États-Unis, a donné des avis d'un pays ami. On pourrait dire même frère, parce que beaucoup de nos compatriotes ont été amenés de force aux États-Unis jadis et constituent les éléments constitutifs de la population américaine. Et donc, nous prenons son point de vue comme un point de vue. Je ne suis pas comme mes amis de l'opposition qui prennent cela pour une injonction, un ordre ou une décision. Parce que nous sommes un pays régi par une constitution et par des lois. La Constitution de la République a son article 211 et la loi organique sur la CENI a son article 9. Dit ceci, la CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. Et cet article précise au point 5 l'attribution selon laquelle la CENI doit élaborer les prévisions budgétaires et les calendriers relatifs à l'organisation des processus électoraux et référendaires. Ça veut dire que une élection ne se décrète pas par la volonté de l'Amérique ou encore moins de la population congolaise. Il y a des conditions techniques qui doivent être réunies. Il y a des conditions financières, il y a des conditions sécuritaires qui doivent prévaloir à l'organisation de bonnes élections. Souvenez-vous.
Et donc, pour vous, Mme Nikki n'a pas tenu compte de tous ces préalables.
Elle a donné un avis, je suppose, après avoir entendu la CENI. Et vous vous rappelez que les différents dialogues que nous avons eus, les dialogues de la CEDELOUIA, prévoyaient, si toute chose reste égale par ailleurs, qu'on peut organiser les élections en avril 2018.
Les et donc, elle rejoint la position de la cité de l'Union africaine.
Elle s'en rapproche. Et même la position
mais
de l'accord.
Vous suivez l'honorable Bolenge Tengue qui semble dire que la position des États-Unis rejoint celle de l'opposition qui parle d'une transition sans Kabila après 2017.
Non, mais sur base de quoi? Parce que lui, il parle de l'article 64 de la Constitution. Mais c'est la même constitution qui dit que le président de la République est remplacé par un président élu, censé le remplacer. Alors, est-ce que nous sommes dans la même constitution ou nous sommes des pasteurs qui chacun tire un verset de la Bible et qui lui est favorable? À lui d'y répondre. Mais moi, je crois que nous devons être rationnels et réalistes. Il faut organiser les élections à tous les niveaux. Il faut organiser les élections censées remplacer le président de la République, censées remplacer les députés nationaux que nous sommes, lui et moi, censées remplacer les sénateurs, les députés provinciaux, les gouvernants, ainsi de suite.
Être rationnel et réaliste, c'est instaurer une transition sans Kabila au-delà de 2017.
Il n'y a pas de transition.
C'est organiser les élections en 2019 ou les organiser en 2018 comme les souhaitent les États-Unis.
Il n'y a pas de transition qui vaille parce que notre constitution prévoit en cas de non-organisation des élections, ce qui se passe. Le Sénat de la République démocratique du Congo est-il en transition, oui ou non? Les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales de la République sont-elles en transition, oui ou non? Ils sont dans la continuité. Et les jours où les personnes censées remplacer ces institutions ou les animateurs de ces institutions seront élus, les autres vont pouvoir. Il n'y a pas de transition qui vaille. Si aujourd'hui Kabila a voulu associer l'opposition à la gestion de l'État, il n'en était pas obligé pour autant. C'est des arrangements particuliers, mais aujourd'hui, la Constitution n'a pas changé pour dire que les premiers ministres viendraient de l'opposition. C'est des arrangements entre humains que nous avons faits, mais la Constitution prévoit que le Premier ministre soit issu d'une majorité au Parlement.
Honorable, cette prise de position des États-Unis arrange ou embarrasse la majorité au pouvoir?
Elle ne peut ni arranger ni embarrasser, parce que je ne sais pas dans quel pot vous trouvez, vous, Guimaté Congolais,
d'entendre qu'un pays tiers vous donne des exemptions. Je me demande ce que ferait Lumumba dans sa tombe s'il entendait de tels propos.
N'est-ce pas un souhait, ce n'était pas des injonctions
Moi, je connais l'anglais.
Vous avez parlé d'un avis.
C'est un avis qu'elle a donné. Vous avez traduit ce que Mme Nikki Haley a dit en anglais dans un bon français qui apaise. Mais moi, je l'ai entendu en anglais et je connais l'anglais. Elle n'a pas demandé. Elle a dit, nous devons avoir des élections. C'est comme si Nikki Haley était congolaise et qu'elle a le pouvoir de dicter à quel moment les élections doivent avoir lieu. Au moment où le président de la République dit, je ne peux pas moi donner une date. Encore qu'il a dit que Kabila doit dire, le président de la République doit dire que les élections auront lieu en 2018. Ça, vous l'avez au moins entendu. Le président de la République n'a pas de pouvoir pour dire quand est-ce qu'il y aura des élections. Parce que la Constitution de la République ne lui donne pas, dans la séparation du pouvoir, le droit de se prononcer sur une date des élections. Je viens de vous lire les articles concernés qui donnent le pouvoir à la CENI.
Mais comment vous répondez à ceux qui disent que la position des États-Unis constitue une prolongation tacite du mandat de Joseph Kabila?
Ce qui prolonge le mandat de Joseph Kabila, c'est la Constitution. Je viens de vous le répéter, c'est la Constitution de la République qui dit que les chefs de l'État, autant que les députés nationaux, les sénateurs, ne cessent leur mandat qu'au moment où les autres élus censés les remplacer sont là. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront dire, ayons honte au moins d'entendre des choses comme ça.
Et à votre avis,
ce n'est pas digne.
Et à votre avis, honorable Nzekouye, au 31 décembre, quel devient l'accord du 31 décembre 2016?
L'accord du 31 décembre 2016 a prévu lui-même que si en décembre 2007, on n'est pas en mesure d'organiser les élections, la CENSA, les gouvernements et la CENI peuvent se réunir pour proposer une autre date. C'est l'accord qui les prévoit. Moi, je n'ai pas été signataire.
Ça, c'est par rapport aux élections. Mais l'accord lui-même devient quoi ces jours-là?
Mais il continue parce que cette incise qui dispose que si on se rend compte que pour une raison ou une autre, et des raisons sont évidentes, la situation du Kasaï qui prolonge l'enrôlement de quelques temps est une situation suffisante. On ne peut pas organiser des élections sans certaines parties de la République. Sinon, la RDC n'est plus un territoire composé de 26 provinces. Et donc, c'est une raison valable. L'accord du 31 décembre 2016 avait prévu que si jamais il y a des problèmes, il y a la possibilité de prolonger avec Kabila. La seule chose qu'on a demandé à cet accord, c'est de ne pas réviser la Constitution, ni que Kabila brigue un nouveau mandat. Est-ce que nous en sommes dans cette hypothèse? Non.
Merci, professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Les États-Unis souhaitent ardemment les élections en 2018. Comment vous analysez cette position?
Merci beaucoup, monsieur Guy, pour la question que vous venez de me poser. Je pense que cette déclaration-là, elle est de nature à contenter les uns et à fâcher aussi les autres. Contenter particulièrement le camp de l'opposition, parce que c'est une déclaration qui vient contredire un peu les déclarations du président de la CENI qui a demandé 504 jours, donc aller au-delà de l'année 2018. Et l'opposition a estimé que ce serait d'aller des prolongements en prolongement ou de glissement en glissement. Alors, demander à la RDC d'organiser les élections en 2018, ça ne peut réjouir que le camp de l'opposition qui attend vite voir ces élections-là s'organiser et par voie de conséquence se débarrasser de son adversaire politique qui est le président de la République. Mais cette déclaration peut fâcher le camp de la majorité. Et vous avez entendu celui qui représente la majorité. Et il a bien dit, peut-être de manière implicite, que la RDC est un État indépendant, c'est un État souverain, et qu'on ne peut organiser les élections en tenant compte de certaines contraintes d'ordre matériel, d'ordre financier, et que sais-je encore. Alors, finalement... Ici, je voudrais quand même dire que si les États-Unis ont demandé, cela, je pense qu'ils n'ont pas tort de le faire. Ils ont effectivement aussi en partie raison de demander que ces élections-là soient organisées le plus rapidement possible. Parce qu'il est évident que, pour le moment, ceux qui assurent la gestion des affaires publiques, leur légitimité demeure encore fondée sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, au-delà, par exemple, du 31 décembre, il y a de fortes chances que le pays puisse plonger dans une très forte crise de légitimité. Alors, quand il y a la crise de légitimité, il est aussi possible que le pays connaisse des conflits. Or, l'histoire de la RDC nous apprend aisément que toutes les fois que nous avons connu des conflits, la communauté internationale, au travers de l'ONU, est venue à l'aide de ce pays. Et vous le savez très bien, les organisations internationales ne fonctionnent qu'avec le financement des États membres. Parlons par exemple de l'ONU. Ce sont les États-Unis qui font partie des grands pays qui contribuent au fonctionnement de l'ONU. Donc d'une manière ou d'une autre, s'il y a conflit, les États-Unis seront impliqués dans la crise ou dans le conflit qui va frapper la RDC. Et je pense que c'est à ce titre-là que l'émissaire des États-Unis a essayé un peu de demander à la classe politique congolaise et particulièrement à la CENI de faire un effort pour organiser les élections dans le meilleur délai. Et je pense que, en pointant déjà l'année 2018, l'émissaire a essayé de jouer un peu au juste milieu. Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous prenons 2018, alors on ne fait pas le jeu de la CENI et on ne fait pas aussi le jeu de l'opposition qui s'attend à tout prix que tout s'arrête le 31 décembre de cette année-ci.
Professeur,
voilà un peu la lecture que je peux faire de cette déclaration.
Voilà, vous dites qu'au-delà du 31 décembre, le pays risque de tomber dans une crise de légitimité. Mais est-ce que la déclaration de Mme Nikki Haley pourrait être susceptible de prévenir une telle situation de crise?
Oui, parce qu'il est évident que même l'accord de la Saint-Sylvestre avait déjà prévu que les élections doivent être organisées au plus tard le 31 décembre. Mais il y a une disposition qui prévoit que toutefois, il y a possibilité, surtout au niveau du CENSA, de voir si on peut prolonger un peu. Alors c'est là que nous, je me dis, bon, si on prolonge un tout petit peu, alors à ce moment-là, nous serons en 2018. Mais aller au-delà de 2018, à ce moment-là, c'est faire le jeu de la majorité au pouvoir qui, manifestement, bon, ne veut pas organiser les élections, même si il y a des déclarations à gauche, à droite, pour dire que voilà, nous sommes pour les déclarer, pour les élections.
Professeur,
nous voulons organiser les élections crédibles, mais en réalité, quand on voit les choses sur le terrain, on se rend compte que bon, ce que l'on déclare est très éloigné de ce que l'on fait réellement sur terrain.
Oui, professeur, si l'idée proposée par les États-Unis obtient l'adhésion de la classe politique congolaise, cela va demander que la classe politique puisse se retrouver une fois de plus, n'est-ce pas, pour discuter de cette position. Est-ce qu'on n'est pas là en train de s'acheminer vers le troisième dialogue?
Bon, c'est vrai, le troisième dialogue, bon, je ne pense pas. C'est question peut-être tout simplement d'exercer une pression sur la CENI, de sorte que celle-ci, parce qu'il est évident que M. Corneille Nanga, permettez-moi, il n'est pas avec nous pour faire sa lecture des faits. Donc, est en train de faire le jeu du pouvoir. Et comme vous le savez, M. Corneille Nanga travaille au niveau de la CENI depuis 2006. En 2011, il a été là. Et vous savez que toutes ces élections, qu'il s'agisse des élections de 2006 comme de 2011, elles ont été entachées d'irrégularités. Et c'est M. Corneille Nanga qui était le technicien. Donc, autrement dit, toutes ces irrégularités-là ont été réalisées et accomplies avec M. Corneille Nangaa.
Merci.
Et il est maintenant inconcevable que aujourd'hui où il assure la présidence de la CENI, qu'il fasse correctement le jeu, parce qu'on peut se poser la question depuis quand l'ange est devenu diable ou que le diable est devenu ange.
Merci pour cela.
Donc c'est une sorte de pression que l'on doit exercer sur lui, de sorte qu'il sorte un peu des carcans d'une classe politique et qu'il manifeste réellement son indépendance face à la situation qui provoque au pays.
Honorable Bonne Tengue, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Je suis Gilbert Balibou de Bukavu, au sud de Kivu. À mon humble avis, l'ambassadrice est venue entériner le glissement en RDC. Sinon, nous sommes dans une république secondée par des lois et non par des états d'âme. Sur base de quelqu'un de Sénégal, les élections peuvent être organisées en 2018. Le pays ne devient pas un royaume de maïs où chacun possède les parts. Le peuple congolais n'a plus besoin des élections à ce stade, mais plutôt le départ immédiat de Joseph Kabila, le reste après.
Oui, honorable Bonne Tengue.
Bon, vous avez vous-même suivi comment il a conclu notre compatriote. Il a évoqué aussi, il a fait référence à des textes. Je voudrais, à ce sujet, répondre un peu à mon collègue Jean-Frère François, qui parlait de l'article 211 de la Constitution, notamment, qui donne mission à la CENI d'organiser le processus électoral. Mais il n'est pas allé au bout de l'article, parce que l'article 211 de la Constitution, en son alinéa 2, précise aussi que la CENI a le devoir sur la régularité des élections. Régularité, ça veut dire les organiser à intervalles constants, tous les 5 ans. Dès lors qu'elle ne fait pas ça, elle faillit à son devoir. Et pourtant, depuis le début de cette législature qui venait de s'achever, l'honorable Nzekouye le sait autant que moi, l'Assemblée nationale a voté des crédits pour la CENI par centaines de millions de dollars. Chaque année. Et pendant 5 ans, ces crédits ont été détournés à d'autres fins, utilisés à d'autres projets, inavoués, jusque-là peut-être même inavouables. Et maintenant, on en arrive à nous dire qu'il y a un problème des ressources, ainsi de suite. La communauté internationale à ce sujet a été claire, depuis déjà plus d'une année. Sortez-nous un calendrier électoral consensuel, un budget réaliste, et on vous trouve les sous. Mais au lieu de faire ça, qu'est fait la direction de la CENI? C'est inventer toutes sortes de raisons pour montrer que les élections, c'est impossible. En 2011, tout le monde sait qu'on a fini l'enrôlement en juillet. On a voté la répartition des sièges en août et on a eu les élections 4 mois après, le 28 novembre. Vous avez suivi comment ils ont démultiplié ces délais pour arriver à 504 jours. Nous ne pouvons sortir de la crise que par l'organisation des élections. Et donc, puisqu'il n'est plus possible d'organiser les élections en 2017, nous avons intérêt à ce qu'on les organise à une date la plus proche de 2017, c'est-à-dire en 2018. Même les pouvoirs devraient y faire attention. Parce que plus ce pouvoir plutôt s'accroche à sa logique de demeurer dans l'illégitimité et à continuer son entreprise de prédation dans cette illégitimité, c'est son bilan qui s'assombrit de plus en plus.
Alors, donc, vous voulez dire que si aujourd'hui la CENI élabore et publie un calendrier qui prévoit les élections en 2018, vous allez partir, vous allez avancer avec Kabila jusqu'en 2018?
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si on a les élections en 2018, on donne au pays la chance d'écourter un tout petit peu les souffrances que son peuple connaît aujourd'hui, le peuple congolais. C'est ce que j'ai dit. L'histoire de continuer avec Joseph Kabila, le rassemblement est clair sur cette question. Il a fini 2 mandats à la tête de notre pays. Il a eu une rallonge sur base d'un accord. Au-delà du 31 décembre 2017, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Le reste se fera sans lui.
Mais nous sommes 80 millions dans ce pays.
Et le fait que, M. Boulenetengue, le fait que Mme Niki n'ait pas dit cela formellement dans sa déclaration, ça ne vous a pas gêné quelque part, vous, de l'opposition? Est-ce que vous ne vous attendez pas que Mme puisse dire il nous faut une transition sans Kabila?
Vous savez, même avec Dieu le Père, nous les croyants, nous disons, ce que nous attendons de lui, c'est de bénir nos efforts, de les accompagner, et non pas de faire le travail à notre place. Nous n'avons pas eu d'attente vis-à-vis de la visite de Mme Niki de venir résoudre la totalité des problèmes du Congo à la place des Congolais. Elle a fait sa part au nom des partenaires qu'elle a représentés. Le reste, la constitution ici, les lois de ces pays sont des lois du peuple congolais. Et donc le peuple congolais a un rôle à jouer en tant que souverain et la constitution lui demande de faire obstacle à tout individu qui veut exercer le pouvoir en violation des règles du jeu.
Merci.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour le reste, notre compatriote, quand il dit que nous n'avons plus besoin d'élections, non, nous avons besoin d'élections pour rentrer dans la légitimité.
Merci,
mais d'ici aux élections, nous avons le droit de disposer de nous-mêmes conformément aux articles de la Constitution qui nous l'autorisent.
Merci. Honorable Nzepui, il y a aussi une question, une réflexion à laquelle vous allez réagir. On l'écoute.
Jafar et Djemni Loukoubé, depuis la ville de Goma. Nous sommes mis une fois d'ici par la déclaration de la CENI et par même la déclaration de la diplomate américaine qui est une preuve de soutien du régime en place. Sur le plan national, la diplomate américaine devrait soutenir l'organisation des élections conformément à l'esprit de l'accord du 31 décembre ou la prolongation en 2018 sans le président Kabila, chose qu'elle n'a pas dite. Les échauffourées ont éclaté à Goma, causant la perte en vie humaine et plusieurs blessés. Un exemple qui montre que la diplomate n'a rien dit de spécial pour un Congolais qui veut la violence au pouvoir.
Oui, honorable Ntekouye.
Oui, d'abord, je dois présenter mes condoléances aux familles éprouvées dans la ville de Goma, qui est ma ville, mais aussi à la famille du président des Barza intercommunautaire de Nyanzale, qui a été fauché hier la nuit. Mais je pense que nos compatriotes, je l'ai dit encore à liminaire, doivent savoir que le destin du Congo est entre les mains des Congolais. Nous ne devons pas attendre des étrangers qui nous disent ce que nous devons faire. Que Niki, elle ait dit ceci ou ait dit cela, ça ne doit pas engager le peuple congolais. Le peuple congolais a une constitution, a des lois qui sont votées par ses élus, et c'est sur base de cela que nous devons fonctionner. J'ai entendu mon collègue Boletengue dire ceci, les personnes qui doivent payer pour les élections ont dit. Mais vous savez très bien les promesses des États-Unis, nous avons quand même une mémoire. Les États-Unis ne sont jamais engagés au-delà de 20 millions de dollars pour des élections qui exigent 1 milliard de dollars. Est-ce que vous croyez que si les États-Unis ne donnent pas les 20 millions de dollars qu'ils ont promis, il n'y aura pas d'élections dans ces pays? Non. Les élections sont financées par les contributions des peuples congolais et l'enrôlement qui est en train de se faire aujourd'hui, l'effet à 99% par les fonds des Congolais.
Donc cela veut dire que la menace des États-Unis de ne pas financer le processus électoral si les élections ne sont pas organisées en 2018, cette menace-là n'a pas d'effet sur la majorité présidentielle?
Non, pas sur la majorité présidentielle, sur les peuples congolais. Je ne parle pas ici au nom de la majorité présidentielle, je parle en tant qu'élu du peuple congolais. Ça n'a aucune influence. Encore que Mme Niki Haley est allée au-delà de ses compétences. Elle est l'envoyée de Donald Trump pour venir régler une question concernant la contribution des États-Unis au niveau de la MONUSCO. Qu'elle ait dit que les États-Unis et la communauté internationale ne financeraient pas. Qu'est-ce qu'on entend par communauté internationale? Lui et quelques pays de l'Occident, où la communauté internationale, c'est les États-Unis et l'ensemble des pays du monde. Est-ce que Niki a un mandat des pays occidentaux, la France, les États, la Bretagne, l'Allemagne, pour venir ici dire ce qu'elle a dit? Je mets ma main à couper qu'elle n'a reçu aucun mandat de ces pays-là.
Mais si elle contribue plus, c'est les États-Unis.
Elle pouvait, non, contribuer plus, c'est faux, encore une fois. Pour les élections à l'Union du Congo, il y a des pays qui contribuent beaucoup plus. Les États-Unis, par contre, contribuent plus
dans la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Ça, c'est une vérité. Et le fait qu'elle ait visité Goma, qui est aujourd'hui le lieu où sont concentrées la plupart des forces des Nations Unies, ou Kichanga, là où il y a un camp des déplacés internes contrôlé par la MONUSCO, c'est une bonne chose pour qu'ils parlent la misère du peuple congolais. Je suis d'accord par rapport à leur appui. Mais de là, prétendre qu'elle engage toute la communauté internationale, je crois qu'il n'en avait pas le droit. De deux, j'estime que les élections dans notre pays doivent se faire avec les moyens des Congolais et nous devons nous en tenir à cela. D'autre part, j'ai entendu des collègues ou des intervenants dire ici, notamment le professeur Moudimbi, que Corneille Nangaa parle les 504 jours aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Corneille Nangaa parle les 504 jours. Il a toujours donné un chronogramme depuis la cité de l'OIA à la CENCO et ailleurs, pour dire qu'à la fin de l'enrôlement, il aura besoin de 504 jours. Mais il nuance son point de vue régulièrement, en disant, sauf si il y a plus de moyens financiers et plus de personnel. Ça, les gens ne les répètent pas. Les gens qui disent aujourd'hui vouloir nous presser à aller aux élections, les contraintes sont de deux ou de trois ordres. Elles sont une contrainte financière, une contrainte en personnel et une contrainte sécuritaire. Si ces conditions-là sont réunies plus vite, nous aurons les élections plus vite. Si elles ne le sont pas, même si on publie un calendrier demain, ce que la CENI compte le faire au courant de la semaine, nous aurons un calendrier qui sera désuet au bout d'un certain temps parce que les moyens ne suivant pas, on ne pourra pas organiser les élections. Il ne faut pas qu'on mente au peuple congolais. Les élections exigent des moyens. Il faut qu'on les mette à disposition et de cette manière-là, nous aurons les élections le plus vite possible.
C'est pourquoi nous avons besoin de soutien financier de nos partenaires, notamment les Américains.
Nous ne les refusons pas, mais je vous dis l'engagement des Américains aujourd'hui, à date, c'est 20 millions de dollars, pas plus. Et cela ne permet pas d'organiser les élections.
Professeur Diop Moudimbi, une réflexion pour vous, elle vient de l'Odja.
Gaston Kanangelo depuis la province du Sankourou à Lodge. Je pense que cette déclaration des États-Unis ne respecte ni l'accord du 31 décembre 2016 de la Saint-Sylvestre, ni la constitution de la RDC. À mon avis, les États-Unis devraient plutôt chercher les voies de solutions pour la gestion de ces deux derniers mois avant la date fixée par l'accord de la Saint-Sylvestre de l'organisation des élections que de proposer l'organisation des élections en 2018. Par contre, la CENI demande 504 jours pour organiser les élections. D'une autre part, l'opposition réclame les élections fin 2017 ou une transition après 2017 sans le président Joseph Kabila. À mon avis, en proposant les élections en 2018 sans les avis des parties prenantes au dialogue de la Saint-Sylvestre, les États-Unis préconisent une catastrophique pour la RDC.
Oui, professeur Jeff Moudimbi.
Merci beaucoup. Je respecte bien les propos de notre compatriote de Lodja. Mais je voudrais dire que la déclaration de l'émissaire des Nations Unies, c'est vrai, s'il peut prétendre qu'elle ne respecte pas l'accord de la Saint-Sylvestre, mais moi je pense que cette déclaration est beaucoup plus réaliste. Je pense qu'il ne faudrait pas rêver. Aujourd'hui, bientôt là, il nous reste deux mois. Or, vous savez très bien qu'on n'a pas encore fini avec l'enrôlement des électeurs. Des deux, pour organiser les élections, la CENI a besoin des moyens matériels, des moyens financiers et même aussi des moyens juridiques. Elle ne dispose pas de toutes les lois nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Et pensez-vous un seul instant qu'au bout de ces deux mois qui nous restent, que l'on puisse réunir toutes ces conditions pour l'organisation des élections, là, je doute fort. Alors, c'est pourquoi l'émissaire a parlé de 2018, et je pense que c'est pour donner un peu de temps aux institutions nationales, et particulièrement à la CENI, de pouvoir s'organiser pour que, dans le meilleur degré, qu'on arrive quand même à l'organisation des élections. Alors, c'est dans ce cadre que j'ai dit que la déclaration de l'émissaire des États-Unis avait force d'une certaine contrainte que l'on exerce et à la fois sur la CENI, sur les détenteurs du pouvoir, dont le gouvernement qui doit financer, et même sur le Parlement qui doit doter la CENI des moyens juridiques nécessaires pouvant lui permettre de mener à bien l'organisation des élections. Voilà un peu ma lecture des choses, mais dire que il faut organiser les élections sans Kabila ou une transition sans Kabila, c'est bien beau. J'accepte cela, mais on peut se poser la question, comment y parvenir? Parce qu'il ne faudrait pas que cela s'arrête seulement au niveau des déclarations. Nous allons organiser les élections et une transition sans Kabila. Mais laissez-moi vous dire que le président Kabila dispose de l'armée qui lui est encore fidèle jusque-là. Le président Kabila dispose de tous les moyens du pouvoir. Alors va-t-on le faire partir avec une simple déclaration?
Professeur?
À la radio ou à la télévision?
Professeur, quand vous dites que la position des États-Unis elle est réaliste, en quoi est-elle réaliste? Parce qu'elle ne tient pas compte de la position de l'opposition d'une transition sans Kabila et ne tient pas compte non plus de la projection de la CENI des 5-5-4 jours.
C'est vrai. L'opposition prétend qu'il faudrait une transition sans le président Kabila et c'est cela que je suis. Comment pensez-vous un seul instant organiser une transition sans le président Kabila? Avec quels moyens? Alors, qu'est-ce que nous avons ou l'opposition dispose réellement pour le faire partir? Alors, c'est ainsi que je pense que la démarche de l'opposition ne me semble pas beaucoup plus réaliste. Mais quand, par exemple, l'émissaire demande à ce que les élections soient organisées en 2018, alors à ce moment-là, on ramène un peu, on demande à la CENI de réduire un peu le temps exigé et dans l'entretemps demander à l'opposition de faire un effort de manière à ce qu'on trouve une solution mutuellement acceptable.
Et donc, une façon de demander à la classe politique de se faire mutuellement des concessions?
Absolument, il faudrait, parce que même dans une négociation, les deux classes politiques là ont des positions tout à fait divergentes. Mais quand on s'engage, on veut trouver une solution, rien à faire, il faudrait qu'il y ait des concessions pour aboutir à cette solution mutuellement acceptable.
Merci. Honorable Mouniteng, comment vous entrevoyez la suite du processus politique après cette déclaration de Mme Nikki Haley?
Je voudrais dire peut-être trois choses à ce sujet. D'abord, vis-à-vis de mon collègue, je voudrais dire que les interventions humanitaires dans notre pays, où il y a plus de 3,5 millions de déplacés internes, du fait de leur mauvaise gouvernance, coûtent cher à la communauté internationale et parmi ceux qui payent, il y a les États-Unis
au pouvoir remplacé.
Oui, bien sûr. Et parmi ceux qui payent, il y a les États-Unis d'Amérique, qui payent aussi pour la MONUSCO et qui sont disposés aussi à payer pour les élections. Ça ne vaut pas la peine de saucissonner les interventions.
Pas au-delà de 20 millions de dollars, comme l'a dit François.
Il a dit 20 millions pour les élections, mais il n'a pas avancé les chiffres pour les aides humanitaires ni pour la MONUSCO.
Et en conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique?
Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés au cours de cette émission. Ils ne veulent plus rien attendre du pouvoir de Joseph Kabila après le 31 décembre. Donc le peuple congolais est tout à fait capable de s'assumer comme d'autres peuples du monde qui se sont débarrassés de leurs dictateurs et les rassemblements de l'opposition et d'autres forces politiques et sociales acquises au changement assumeront
les libertés. Donc vous appelez le peuple à la révolte, c'est ça?
Je n'ai pas dit que j'appelle le peuple à la révolte. J'ai dit que le peuple congolais s'assumera sous le leadership du rassemblement de l'opposition.
Honorable Zekouye, votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Je crois que nous savons tous que nous avons décrié les élections qui ont entraîné mort d'homme en 2006 et 2011. Nous voulons des élections qui se passent dans l'apaisement et dont les résultats vont être acceptés par tout le monde. Si nous voulons que ces élections se passent le plus vite possible, la communauté internationale et nationale devront mettre la main à la pâte pour pouvoir mobiliser plus d'argent et plus de personnel et vouloir que le pays soit en sécurité pour que les élections le passent le plus vite possible et que tout le monde en tire profit.
Professeur Jeff Mugimbi, votre conclusion?
Oui, ma conclusion, c'est que je demande à la classe politique de bien vouloir respecter les textes qui nous régissent, parce que le désordre qu'ils entretiennent n'est pas profitable à la population. Et je crains que ce désordre puisse conduire à un régime d'exception.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsala qui était à la technique. Merci à Alain Hirong qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipena Mondo. À la présentation Guy Maté. Merci et bonsoir du programme sur Radio Capi.